Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc.
Quand les commissions s'arrêtent, les terroristes ont soif.
Cette semaine, l'affaire Karachi.
On a commencé à creuser cette affaire en partant du fait qu'on ne partait pas tout à fait de rien, puisqu'il y avait une enquête judiciaire qui existait et qui méritait d'être explorée.
Aujourd'hui, les juges ont une cathédrale d'éléments démontrant que l'argent est revenu en France et plus que très vraisemblablement à financer les politiques et peut-être même personnellement en dehors des campagnes électorales.
Plaidoirie et enquête, l'apport de la contre-expertise.
Le dossier a changé de nature. Dossier qui désormais a un volet terroriste, un volet financier.
C'est devenu une affaire sensible.
C'est le diable qui se niche dans les failles du système démocratique.
Comment devient-on journaliste spécialisé dans les affaires judiciaires ? Comment parvient-on à mettre au clair un jargon souvent incompréhensible, celui des tribunaux ? Quelle est la caractéristique de l'affaire Karachi ? Quel a été le déroulé de l'enquête ? Comment celle-ci a-t-elle rebondi ? Hier, dans une première partie d'entretien, l'avocate Marie Dauzé, qui intervient dans l'un des volets de l'affaire Karachi, nous rappelait les circonstances de ce changement. Nous allons à nouveau revenir sur cette question aujourd'hui même, en la retrouvant, ainsi que la journaliste Laure de Vulpian, au micro d'Histoire vivante.
Puis-je vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ?
Laure de Vulpian, journaliste à France Culture depuis 16 ans, et je suis en charge des questions de justice et de droit à la rédaction.
Ce qui demande une compétence, peut-être même une formation, journaliste et juridique, ce ne sont pas forcément des langages qui vont de pair. Alors, est-ce que c'est en chemin que la journaliste s'est spécialisée ou est-ce une juriste qui s'est perdue dans le monde des médias, Laure de Vulpian ?
Ni l'un ni l'autre.
Raté.
Je suis entrée à Radio France il y a 30 ans, à un moment où on n'avait besoin d'aucun diplôme. J'avais envie d'être journaliste et j'avais découvert la radio avec les radios libres avant 1981. Et voilà, et j'ai décidé de postuler, de faire acte de candidature. J'ai été prise, embauchée. Après, la justice est venue progressivement. Alors, j'ai pas fait d'études de droit non plus. Sur le tas, il y avait des sessions d'assises régulièrement tous les 3 mois et par goût, j'étais la seule de la rédaction à Rouen à l'époque qui avait envie d'y aller et paraît-il je faisais ça plutôt bien, et ben on m'a laissé y aller à chaque fois. Et là je me suis habituée au langage juridique, donc c'est pas devenu une spécialité, mais c'était voilà, petite corde à mon arc. Et quand je suis arrivée à France Culture, au bout d'un moment, j'ai demandé à reprendre la rubrique justice qui était vacante, après avoir fait mes preuves quand même pendant toute la durée du procès Papon. C'était 6 mois à Bordeaux, donc on m'a dit oui.
D'autant qu'il y a, on va dire, dans l'histoire de la radio, il y a des hautes figures que sont les chroniqueurs judiciaires. Il y en a eu des quantités, évidemment, les très célèbres, style Potcher à Europe 1, ou Lefebvre à la télévision, non pas à la radio, mais à la télévision, mais je pense qu'il l'a fait également en radio. La plupart du temps, c'est vrai que le chroniqueur judiciaire, c'est un peu comme l'expert bourse, c'est-à-dire c'est une personne à qui l'on donne à peu près toutes les affaires judiciaires à gérer. Est-ce que c'était votre cas également ?
Alors, France Culture, c'était beaucoup plus large que ça, parce que d'abord, on faisait peu de procès, on était très sélectif sur les procès, il fallait qu'ils soient emblématiques de quelque chose.
On n'était pas dans le fait divers.
Pas du tout. Donc, c'était une partie seulement de mon activité, et tout le reste avait par contre un rapport avec le droit, ou avec les lois, ou avec les affaires, les instructions, etc. Donc, c'était beaucoup plus large que ça. Mais c'est vrai que j'ai commencé la rubrique de la chronique judiciaire en 1997, et à cette époque-là, j'étais la seule. Et en fait, j'ai été renforcée très récemment par deux consoeurs, mais ça a un an à peine. Hein. Donc, c'est vrai qu'on identifie une matière à une voix, une personne.
Comment vous y êtes-vous pris ? Comment arriver à traduire un jargon, déjà pour arriver à rentrer dedans et arriver à le comprendre, et arriver après à le traduire au public ? Le jargon juridique ne va pas de soi. Pour reprendre l'exemple de Frédéric Potcher, il y avait un accent dramatique qui faisait que Potcher était quasiment à la barre quand il faisait ses chroniques. Vous, parce que je vous ai entendu, et tout le monde qui le souhaite peut aller vous entendre sur l'antenne de Culture, vous, c'est pas en rajoutant dans le domaine du pathos ou de la couleur dramaturgique. Vous avez donc signé ça de manière différente. Est-ce que ça vous a demandé du temps? Est-ce que ça vous a posé pas mal de questions? Est-ce que vous vous êtes trouvé sur des impasses ou des embrouilles en vous mélangeant les pinceaux, comme je suis en train de faire avec ma question à rallonge, par exemple?
Se mélanger les pinceaux, non, parce qu'il suffit d'apprendre le jargon, en fait. C'est pas très... Quand on suit un procès, hein, c'est pas très compliqué de savoir qui est l'avocat général. La distribution des rôles est très claire. Ensuite, il y a une logique interne au droit qui est extraordinaire, que j'ai découverte petit à petit, comme ça.
Quelle est-elle, cette logique interne?
C'est une logique...
Le droit,
voilà. Le droit est d'une logique imparable. Je veux dire, jamais je ne peux dire je prévois ce verdict, mais en même temps, tout explique un verdict. Tout un procès explique un verdict. Et le droit se suffit à lui-même. Donc c'est vrai que si on veut être clair, être comprise, il faut traduire le jargon. Et puis, il faut aussi donner à voir ce qui se joue. C'est pas forcément évident pour la personne qui viendrait juste observer comme ça une fois de temps en temps. Par contre, le chroniqueur judiciaire qui a l'habitude d'être là, il comprend qu'à ce moment-là, le procès bascule. Donc, là, on raconte une histoire. On change de... Comment dire ça? On change de décor un petit peu. On change le décor. C'est-à-dire... je sais pas comment expliquer ça. En tout cas, c'est subjectif. La chronique judiciaire, c'est subjectif. Et celui qui est là, dans le prétoire, pour assister et ensuite raconter, enfin, moi, c'est mon expérience personnelle, je suis comme une éponge. C'est-à-dire, j'écoute, je prends des notes, je suis attentive en permanence, et puis je suis touchée, évidemment. Il m'est arrivé de pleurer. Pas tout le temps, hein, mais par exemple au procès Papon, il y a eu des témoignages qui étaient tellement ahurissants que je pleurais. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et après, la difficulté, alors particulièrement en radio, parce que tout va vite, hein, vous faites votre papier directement en sortant de la salle d'audience, éventuellement en cours d'audience, il faut prendre la distance nécessaire qui vous permet, alors là, de ne plus pleurer, de ne pas avoir la voix qui tremble, et puis de raconter avec le recul suffisant, ce qui vient de se passer. Et là, je pense que la subjectivité y est, et elle y est aussi à cause de la voix. Mais ça, c'est propre à la radio, de toute façon.
13h30, les avocats, les témoins et les journalistes sont tous installés dans la salle des criés quand une clameur retentit. Des cris, des hurlements, puis le silence. Jérôme Kerviel entre dans la salle d'audience, suivi par son...
D'emblée, le ton est donné, agressif, et par moments haineux, ou à la limite. Entre Kerviel et la banque, il n'y a pas de réconciliation possible. C'est ce qui ressort de la longue déposition de Claire Dumas, qui représente la personne morale Société Générale. Une quadragénaire toute pénétrée de son importance, Jean-Pierre Muratier n'avait jamais vu Jérôme Kerviel avant de l'interroger 5 heures durant ce samedi de janvier 2008. Le risque, Kerviel venait d'être découvert, mais la banque ignorait... Au premier jour du procès, mardi, la défense avait présenté un schéma de l'implantation des postes de travail au desk Delta One. Dans cette ambiance tendue comme une corde à piège, les avocats eux-mêmes de la com, dites-le, écrivez-le, et que ce soit dans le journal.
On entend presque ce métier si particulier de ceux qui font les croquis à l'intérieur des salles d'audience. Il y a quelque chose qui relève de ça, sauf que là, il ne s'agit pas du dessin, mais d'un dessin sonore qui va se dessiner après.
Alors, dessin sonore, dessin pas sonore. Moi, je dirais pas ça. Je dirais dessin verbal. Parce que, alors justement, moi, j'ai une petite signature, entre guillemets, c'est que, au contraire de beaucoup de mes confrères, mais ça s'explique, hein, et je l'expliquerai après, moi, je fais pas de son, je fais pas d'interview, je fais que du papier. Parce que j'estime que c'est à moi, chroniqueur judiciaire, de maîtriser l'économie de mon papier. donner la parole à l'un, à l'autre, soulever la question, etc. Tandis que si vous sortez de la salle d'audience, vous arrivez avec votre micro et vous faites l'interview de l'un, puis l'interview de l'autre, qui sont éventuellement diffusées à des moments différents. Enfin, je veux dire, là, l'auditeur, il n'y comprend plus rien. Et vous avez au micro quelqu'un qui refait l'audience à sa façon à lui. Et il n'y a plus d'économie globale. Et ça, si les autres médias se sont mis à faire beaucoup d'interviews, je pense que c'est l'effet France Info, qui était 24 heures sur 24, la première radio à être 24 heures sur 24, et avoir besoin donc de beaucoup d'éléments différents sur la même chose. Et donc, plutôt que d'avoir sans arrêt la voix du journaliste, ce qui aurait été un peu rasoir à la fin, enfin je veux dire, ça aurait été saoulant, on mettait la voix du journaliste, édition suivante, la voix d'un avocat, un autre avocat, etc., etc. Bon. Mais je trouve que ça a été une espèce de dérive à laquelle personnellement moi je n'adhère pas et je suis ravie qu'à France Culture on m'ait laissé continuer à faire ça pendant comme ça pendant des années.
Bon, on va sauter sur l'occasion lors de Vulpian. Quel est votre regard sur l'évolution, la présence, pour ne pas dire l'omniprésence des émissions ayant attrait avec la justice, notamment à la télévision, parce que la télévision sait particulièrement que le public aime les histoires judiciaires, mais précisément ce que la télévision traite comme histoire judiciaire, c'est soit le fait divers, beaucoup plus rarement, le type de procès auquel vous vous êtes frotté, parce que si vous donnez aux auditeurs un peu la liste, comme ça, non exhaustive de ce que vous avez couvert comme procès, vous avez été à des rendez-vous, on peut dire, historiques.
Papon, Le Sang Contaminé, Kerviel, Clearstream. Vous voyez, c'est quand même assez varié. Et puis, aussi, Osarès. Et c'était quoi? C'était de la diffamation. Je veux dire, c'est drôle, comme par des détours. Là, c'est un effet de la procédure. C'était pas le procès de la torture pendant la guerre d'Algérie. Non, c'était un procès en diffamation. Bon, voilà. C'est vrai que dans notre choix à France Culture, on est très exigeant sur les procès qu'on traite, et on n'a pas du tout les mêmes exigences que la télévision, qui effectivement est plutôt sur le sensationnel. Par exemple, je me souviens de quelque chose que ça a été très difficile. Le procès Fournirait, ce type horrible avec sa femme qui enlevait des petites filles et qui les tuait après en avoir abusé. Moi, je voulais pas y aller et je m'y opposais. Et il a fallu que je dise à mon directeur de la rédaction, si tu veux que je le couvre, eh bien il faut que tu m'en donnes l'ordre, parce que sinon je n'y vais pas. Je ne voulais pas y aller, je ne voyais pas ce que France Culture allait faire là-bas. Et j'y suis allée, et heureusement je suis restée 2 jours. Et au bout de 2 jours, je suis rentrée en disant c'est fini, je peux plus rien dire de plus, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Par contre, peut-être qu'une chaîne de télévision trouverait matière à en faire plusieurs émissions.
Alors, il faut vous expliquer, parce que ça ne va pas de soi. Ça n'a aucun intérêt, précisément, parce qu'il y a une sorte de paradoxe avec le goût du public qui y voit un intérêt. Alors, faut-il, comme vous faites, tourner le dos, puisque finalement vous dites... ma présence cautionnerait, d'une certaine manière, ou mon commentaire cautionnerait une certaine forme de spectacle de la justice, ce que je ne veux en aucun cas. Mais du coup, effectivement, vous vous retirez complètement.
C'est pas que l'affaire n'ait aucun intérêt, ou que le fait divers ne peut pas appeler réflexion. C'est le procès n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt d'entrer dans le détail de l'histoire, de savoir comment il a fait. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, l'intérêt, ça peut être, à l'occasion de ce procès, d'aller voir des experts, des psys, des machins, etc. Bon, peut-être. Mais en soi, décortiquer l'horreur, une horreur qui est celle d'un homme ou d'un couple... non, c'est morbide. Enfin, c'est même pas morbide, c'est immonde, c'est pervers de toute façon. C'est par contre décortiquer la complicité de crimes contre l'humanité de Maurice Papon, en quoi elle consiste, en quoi c'est important pour, entre guillemets, la France de revenir sur cette page d'histoire 55 ans après la collaboration. Là, oui, mais Fournirait, quel est l'intérêt au regard, même pas forcément de l'histoire, mais simplement de notre propre réflexion, se perdre dans des abîmes de perplexité sur comment est-ce qu'on devient un assassin d'enfant, ça m'intéresse pas. Ça flatte des bas instincts et je crois pas que ce soit bien de favoriser ça.
Il est vrai que les médias ont le goût du morbide.
Les médias traitent sans arrêt de l'horreur, la mort, la guerre. Voilà. Et en fait, on est, je pense, enfin, c'est un peu dur ce que je vais dire, un peu bizarre, aussi paradoxal. On se repaît de tout ça, on est complaisant avec tout ça, et on ferait mieux d'être plus sélectif, je trouve. Et puis, je pense qu'on entretient une espèce de dépression nerveuse permanente, quoi.
Ça fait partie des choses sur lesquelles vous vous interrogez?
À titre complètement personnel, hein. Oui.
Moi aussi.
Ah ben c'est bien.
Enchanté de vous rencontrer.
Moi aussi.
Vulpian, vous êtes avec nous aujourd'hui, alors à la fois parce que vous vous occupez de près des affaires et des chroniques judiciaires sur France Culture, et particulièrement parce que nous traitons cette semaine de l'affaire Karachi. Alors, je vous ai demandé et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation, de venir raconter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, disons, le panoramique juridique de cette affaire Karachi, parce que elle est en route depuis déjà un certain temps, et on a l'impression d'une sorte de procédure qui n'en finit pas, comme ça, vu de l'extérieur. Or, en fait, c'est parce que un certain nombre d'instructions ont été menées. Est-ce que vous pourriez... peut-être pas dans le menu des détails, mais nous les rappeler quelque peu.
Oui, alors elle commence en 2002, donc ça fait effectivement un bon moment. En fait, elle s'accélère beaucoup là, en tout cas dans une de ses parties. Les faits, eux, sont plus anciens, hein, puisqu'ils datent de 1994-1995, donc ça fait encore plus ancien. Donc au départ, c'est quoi? C'est pour la plupart des Français, tout d'un coup, c'est un attentat et c'est des morts à Karachi, au Pakistan, des gens qu'on présente comme des ingénieurs qui sont en fait des ingénieurs, des ouvriers, etc., qui travaillent à la direction des chantiers navals et qui vont assembler des sous-marins que la France a vendus au Pakistan. Donc c'est des armes de guerre. Et ces gens sont tués dans l'explosion du bus qui les conduit tous les jours sur leur au chantier naval. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Personnellement, je me souviens pas de ce moment-là. Hein. Je n'ai pas gardé ça en mémoire. Bon, forcément, il y a une information judiciaire qui est ouverte, puisqu'il y a quand même 11 Français parmi les victimes. Et immédiatement, c'est considéré comme un attentat terroriste parce que ça vise des intérêts français. Je veux dire, travailler sur un chantier naval...
Qu'on est dans une période où, en plus de ça, ce n'est pas le premier des attentats.
Voilà, on n'est quand même pas très loin des attentats du 11 septembre, etc. Bon, donc, c'est un juge antiterroriste qui est désigné, et c'est le juge Jean-Louis Bruguière. Qui n'est pas n'importe quel juge. Hein, c'est lui le magistrat emblématique de la lutte contre le terrorisme en France. C'est lui qui a fondé le pôle antiterroriste, pôle d'instruction. C'est lui qui le dirige. C'est un grand magistrat qui n'est pas forcément toujours très apprécié, qui n'est pas très sympathique non plus, qui a des drôles de contacts avec les médias. Il choisit ses interlocuteurs et il s'en sert pour faire passer des informations.
Vous avez fait partie, vous, de ces interlocuteurs choisis ?
Pas du tout.
Parce que vous faites des papiers.
Je fais des papiers, je fais aussi... Mais pour faire des papiers, je vais voir les juges. Hein. Et les juges, eh bien, ou ils me reçoivent ou pas. Ça, c'est... Certains ne reçoivent jamais les journalistes. D'autres reçoivent les journalistes, d'autres reçoivent des journalistes. Et ils choisissent lesquels. Bon, moi, j'ai vu Bruguière une fois.
C'était la dernière.
Exactement. Voilà, ça s'est moyennement bien passé, mais c'était sur un tout autre sujet, c'était le Rwanda. Bon, donc, Karachi. Bruguière a fait prendre à ce dossier une direction immédiate et qu'il a gardé jusqu'à ce qu'il soit, il n'ait plus le dossier, donc ça devait être en 2007 ou en 2008, c'est le terrorisme, la piste Al-Qaïda. Donc, voilà, la presse n'avait qu'une information, celle-là. À un moment, alors je ne sais pas dater ça exactement, c'est peut-être 2006. Bon, les juges d'instruction en France se sont mis à être co-saisis ou à avoir un co-juge. Donc Bruguière a eu comme co-juge d'instruction Marc Trévidic, qui arrivait comme juge d'instruction au pôle antiterroriste et qui s'est mis à travailler avec lui sur tous ces dossiers. Peut-être pas particulièrement sur celui-là dans un premier temps, mais en tout cas, quand Bruguière est parti à la retraite, Trévidic a repris son travail.
Parce que le pôle, et notamment le juge Bruguière, couvre à ce moment-là ou s'occupe d'un grand nombre de dossiers. Tout ce qui recoupe, au fond, qui doit passer par la question de l'antiterrorisme
en
France.
Tout à fait. Donc, Trévidic reprend le dossier. Trévidic a une marque de fabrique. Souvent, il fait changer le cours des instructions. Bizarrement. En fait, c'est pas qu'il a des lumières particulières, c'est qu'au moins il instruit, il me semble, mais c'est personnel ce que je dis, c'est subjectif, il me semble qu'il instruit à charge et à décharge. Il instruit sérieusement. On peut dire du juge Bruguière qu'il instruisait autrement. Tous les juges d'instruction en France sont indépendants, de par la Constitution. Ça veut dire quoi, être indépendant dans ces conditions-là? Ça veut dire que chaque juge fait le choix de la dépendance ou de l'indépendance. S'il décide d'aller dans le sens du poil, dans le sens du pouvoir, il peut le faire. S'il décide de marquer son indépendance, il peut le faire aussi. Donc, je vais peut-être dire quelque chose des normes, mais il me semble que le juge Bruguière était le juge de la raison d'État. Il était, en fait, d'une certaine manière, l'avocat de l'État. Dans le terrorisme, c'est toujours l'État, in fine, qui est attaqué. Donc, que le juge d'instruction soit l'avocat de l'État, c'était un petit peu, à mon sens, hein, un peu gênant.
Marie Dosé, vous nous avez indiqué qu'avec le changement de juge d'instruction, passé du juge Bruguière au juge Trévidic, puis au juge Van Ruynbeck, enfin non pas au juge Van Ruynbeck, mais le juge Van Ruynbeck s'occupant notamment du volet financier, en plus du volet terroriste dont s'occupe Marc Trévidic, il y avait eu changement. Quand l'attentat a lieu en mai 2002, un mois auparavant, c'est passé un événement relativement considérable en politique, l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que la continuité, ou plutôt la discontinuité politique, l'alternance droite-gauche, change quelque chose au dossier Karachi ? Autrement dit, est-ce que le politique s'en sert ou ne s'en sert pas ? Peut-il s'en servir ou pas ? Sachant que c'est quand même une patate chaude. Voilà, quel est un peu ce paysage-là ?
Je ne vais pas être désagréable à l'égard de M. Bruguière, si, je vais tout de même l'être. C'est un juge de la raison d'État qui, n'oublions pas, se présente en 2007 sous les couleurs de l'UMP. C'est un magistrat de droite qui va jusqu'à choisir la politique plutôt que le judiciaire à la fin de sa carrière et qui couvre le rapport d'autopsie de l'homme qui était censé être dans cette voiture, s'être collé au bus et avoir fait exploser le bus. Ce rapport d'autopsie a été caché pendant 10 ans par M. Bruguière. Pendant 10 ans. Pourquoi ? Parce que ses conclusions le dérangeaient. Ses conclusions le dérangeaient parce que les médecins légistes expliquaient que cet homme ne pouvait pas être resté dans la voiture, qu'il était donc sorti avant l'explosion. Et ce n'est absolument pas le mode opératoire d'Al-Qaïda. Donc, la thèse terroriste était branlée, ou en tout cas la thèse Al-Qaïda de M. Bruguière. Donc, le rapport d'autopsie n'est pas versé au dossier. Il y a chez Monsieur Bruguière une volonté, mais pas seulement dans ce dossier, je crois. Nous sommes dans le dossier Garachi, mais on peut le dépeindre comme cela. Monsieur Bruguière est vraiment le magistrat qui sert l'État. En 2002, servir l'État, c'était servir la thèse terroriste.
On n'a pas du tout entendu parler de cette instruction dans la première phase, dans la phase Bruguière. C'était Al-Qaïda, c'était Al-Qaïda. C'était, je veux dire, il n'y a pas eu, il me semble pas qu'il y ait eu, que j'ai fait, moi, beaucoup de papiers à ce sujet-là. C'était pas polémique, c'était pas, ça semblait très clair. C'est à partir du moment où Trévidic a repris le dossier et lui a donné une autre direction que là, et quelle direction? Que là, c'est devenu une affaire sensible. Voilà. C'est savoir pourquoi cet attentat. Il y a eu des éléments factuels qui ont permis à Marc Trévidic de se dire que non, c'était pas Al-Qaïda. Parce que, il y avait des éléments qui ont montré que, finalement, il n'y avait pas de kamikaze qui est venu garer sa voiture tout près du bus pour voiture bourrée d'explosifs pour faire sauter tout ça. Non, non, c'était pas un pauvre kamikaze soi-disant relié à Al-Qaïda. Par contre, il semblerait donc que ce soit un attentat orchestré plutôt par le pouvoir pakistanais ou des services pakistanais en représailles à des décisions politiques françaises. Donc, pour en arriver rien qu'à à exposer ça comme ça, il a fallu que Trévidic, et là je ne sais pas trop comment il a fait, il ne s'est jamais expliqué là-dessus parce qu'il ne parle jamais du contenu de ses dossiers. Donc, il semblerait que les représailles soient opérées parce que des commissions ont arrêté d'être versées. Ah, des commissions. Donc on n'est plus sur un mobile terroriste, on est sur un mobile financier. Ah, effectivement. L'affaire change complètement de nature. Alors, elle garde son aspect criminel, puisqu'il y a eu des morts, donc il y aura toujours un volet criminel. Et en même temps, il y a aussi maintenant un volet financier qui a été confié au juge Renaud Van Rimbeck, qui est un autre grand magistrat emblématique en France. Et lui enquête avec un co-juge, qui est Roger Leloir, sur le volet financier. Donc, le dossier a changé de nature. Et à partir du moment où on parle de commission, de contrat d'armement, c'est des contrats d'État à État, où des ministres doivent signer, où il y a des intermédiaires, où on verse des commissions, et qu'apparaissent tout d'un coup des rétro-commissions, on soupçonne qu'il y a eu des rétro-commissions, alors là on se dit, ah mais il y a un sacré mobile. Et le mobile, c'est des millions de francs ou des millions d'euros. Donc voilà, et ça... ce serait le prix de la vie de ces 14 morts, dont 11 Français.
Marie Dauzet, vous vous occupez de l'affaire Karachi. Vous avez pris en défense trois personnes qui sont directement ou indirectement liées à l'attentat qui s'est déroulé en 2002. Sur le plan de cette spécialité qu'a la France d'avoir des affaires, disons, politico-financières, comment vous placez l'affaire Karachi dans ce vaste dossier? Est-ce que Karachi, c'est une affaire très particulière?
Non, je pense que le dossier Karachi a une place toute particulière. Pourquoi ? Parce que il y a ce lien à rechercher au niveau judiciaire entre le volet financier et la bombe, entre les commissions et l'attentat. C'est extrêmement difficile. Je dis souvent à ces trois personnes, à ces trois familles que je défends, que je ne pense pas qu'on aura un jour une vérité judiciaire. Une vérité historique, oui, mais une vérité judiciaire, ce sera compliqué. Comment va-t-on pouvoir prouver que il y a effectivement un lien entre ces commissions et l'attentat? C'est un peu la particularité de ce dossier. Nous nous sommes constitués partie civile sur des infractions qui sont abus de biens sociaux, blanchiment, qui sont aujourd'hui détournement de fonds publics, qui n'ont donc aucun lien juridique avec l'attentat, l'assassinat, les blessures, l'homicide. Absolument pas. Pourquoi ? Parce que nous recherchons le lien de causalité entre l'argent et l'attentat. Donc il y a ici une place pour les parties civiles, pour les victimes, très compliquée à gérer. Les avocats de la défense estiment que nous n'avons rien à faire dans le volet financier du dossier. Sauf qu'un rapport Nautilus dit que c'est la cause de l'attentat. Serons-nous recevables ou irrecevables si un jour M. Taquiedine ou d'autres sont traduits devant le tribunal correctionnel? Nous le verrons bien. Mais c'est toute la particularité de cette affaire de considérer que les victimes aujourd'hui, leur intérêt c'est de savoir ce qui s'est passé sur l'argent, sur des abus de biens sociaux, sur du blanchiment, parce que peut-être il y a un lien avec cet attentat.
Alors, on va peut-être poser la question de manière un tout petit peu différente. Pour les familles, s'agit-il aujourd'hui d'avoir la vérité des événements, ou plus exactement, que la révélation de la vérité des événements soit enfin rendue publique? Parce que, sans doute, dans leur fort intérieur, le scénario est déjà largement écrit.
Les familles veulent tout. Elles veulent tout, et je pense que si on leur donnait tout, ça ne serait pas assez. C'est très compliqué, vous savez, de défendre des gens qui ont été meurtris, qui demeurent meurtris, de défendre une femme dont l'enfant n'a plus de père et n'en aura pas, de défendre une autre femme qui s'est mariée post-mortem, après la mort de celui qui est décédé à Karachi, de défendre ce blessé, Gilles Sanson, qui n'a pas perdu conscience au moment de l'attentat et qui donc a vu mourir ses meilleurs amis, ses collègues, et qui n'arrive toujours pas à le raconter sans s'effondrer. C'est une vraie difficulté. Il y a la raison et il y a leur ressenti. Leur ressenti veut tout, bien évidemment. Ils veulent que les gens soient punis, ils veulent que tout soit démontré, ils veulent que justice passe, mais ça va même beaucoup trop loin. Parfois, on parle, on explique, j'écris des lettres, j'écris des notes, et ils comprennent la logique du dossier. Mais dans leur fort intérieur, c'est aller tellement loin dans la destruction de leur vie qu'ils veulent que tout cela aille jusqu'au bout, mais tout en sachant que ça n'est pas possible, en tout cas juridiquement, ils ont du mal à renoncer.
Et ceux qui vous entendent avec attention entendent à quel point leur propre émotion est contagieuse.
Oui, elle l'est. Elle l'est pour moi. C'est pas toujours facile de porter ces personnes qui sont avides de justice.
Et à vif.
Complètement à vif. Je leur dis souvent qu'elles sont écorchées, et c'est normal, mais elles le seront à jamais. Et c'est très difficile de porter des informations comme Monsieur Bazir a été mis en examen, Monsieur Taquiedine a été réentendu par le juge, Monsieur Taquiedine est sorti de maison d'arrêt, il a été placé en détention provisoire, alors que elle sait qui les a tués. Et parfois il y a
le reste, c'est du détail.
C'est compliqué. Ça ne l'est pas parce qu'elles suivent. Elles ont vraiment dû aussi faire un travail terrible sur elles-mêmes pour aller jusqu'au bout de ce dossier qui est nébuleux, qui est compliqué, et elles le comprennent, elles le suivent à la lettre. Mais parfois, ça les dépasse et elles voudraient juste que ce soit simple, que ça s'arrête et qu'on dise la vérité. Je pense aussi une chose, sincèrement, c'est que durant toutes les années Bruguière, elles ont perdu confiance en la justice et que ça a été terrible. Elles ont été trahies, elles ont été sacrifiées. Elles ont été sacrifiées pour la raison d'État. On leur a menti, on leur a fait croire que on ne leur a pas dit la vérité. L'entreprise pour laquelle elles travaillaient, l'une des veuves que je défends travaillait à DCN. Monsieur Gilles Sanson a continué de travailler à DCN, cette entreprise qui fabrique les sous-marins. Et cette entreprise leur a menti. Elle leur a caché Nautilus. Elle leur a caché le rapport qui peut-être expliquait la mort de leurs proches. Donc, si vous voulez, il y a cette trahison grâce à Monsieur Trévidic. petit à petit, elles ont à nouveau confiance en la justice, mais bien évidemment, elles en veulent trop et c'est tout à fait légitime.
Quand vous en parlez, vous, Marie Dauzet, avec les autres avocats, si toutefois vous arrivez à en parler, quelle est la nature? Vous faites une grimace, donc vous préciserez la nature de la grimace. Peut-être que vous ne pouvez pas en parler du tout. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'en parler avec les collègues ou est-ce qu'il n'y a pas du tout le terme collègue n'est pas à propos?
C'est un peu compliqué. Je crois qu'après près de 11 années d'instruction, il y a des divergences.
Et d'appréciation sur le dossier?
D'appréciation sur le dossier sur le fond, des divergences sur la forme. En tout état de cause, et je le regrette, on ne peut pas parler d'un travail collectif dans cette affaire, ce qui est dommage. Mais vous savez, les choses évoluent.
Chaque partie défendant son point de vue, enfin, qu'on comprenne même la règle générale?
Il n'y a pas de travail collectif. Voilà, et je le regrette. Mais, je le répète, les choses évoluent. Jusque-là, voyez, les blessés avaient leurs avocats et les veuves avaient leurs avocats. Il y avait une forme, et ça les regarde, c'est leur histoire, ça ne m'appartient pas, donc je n'irai pas plus loin, mais il y avait une forme de scission, de division. Je suis très heureuse de défendre à la fois un blessé et des veuves, qui de surcroît s'apportent mutuellement, se soutiennent mutuellement, s'entendent et s'écoutent. Ça, c'est, je pense sincèrement que dans l'histoire, la humaine de l'attentat de Karachi, c'est un vrai progrès.
Puisqu'on est sur le versant optimiste de cette haute montagne, Karachi, Marie Dauzet, quels seraient, disons, à moyenne échéance, les prochains moments à attendre pour ceux qui nous écoutent en ce moment et qui souhaiteraient, disons, porter leur regard sur cette actualité-là?
Sur le volet terroriste, la prochaine échéance, la plus importante probablement, c'est le départ de Monsieur Trévidic au Pakistan. Je vous l'ai dit tout
à
l'heure.
Il est déjà annoncé dans les dates ou c'est encore flottant?
Non, malheureusement, nous nous heurtons à une absence de coopération, c'est une évidence, mais il faut surtout que le Quai d'Orsay appuie ce départ, donne les moyens à M. Trévidic de réaliser des investigations au Pakistan. La vérité éclatera du Pakistan ou n'éclatera pas. C'est une évidence. Donc c'est une échéance que M. Trévidic se fixe depuis 2 ans, mais qui pour l'instant ne peut pas être réalisée et c'est tout à fait dommage. Ce qu'on attend aussi sur le volet terroriste, c'est qu'enfin, les déclassifications soient effectives. Nous nous heurtons dans cette affaire, et quels que soient finalement les gouvernements, à une frilosité impressionnante s'agissant des demandes de déclassification. La vérité passera par la déclassification. Monsieur François Hollande avait fait de grandes promesses s'agissant des déclassifications des documents dans l'affaire de l'attentat de Karachi, qui ne sont pour l'instant, en tout cas pour l'instant, je le répète, qui ne sont absolument pas effectives et c'est très dommage. Sur le volet financier, M. Van Rynbeek sera obligé de dénoncer certains protagonistes, comme M. Balladur probablement ou d'autres, à la Cour de justice de la République, puisque là encore M. François Hollande n'a pas tenu sa promesse de la supprimer. Et donc nous pouvons imaginer que sur le volet financier en tout cas, le dossier soit clôturé dans les mois qui viennent, peut-être à la fin de l'année ou en tout début d'année prochaine.